Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il n'y a pas de consensus sur la définition et la portée de la laïcité. Cette instabilité est source d'incertitude, d'incompréhension et parfois même de conflit. Voilà ce que l'on peut lire dans le rapport que le préfet Gilles Clavreul a remis au gouvernement il y a quelques jours. Selon l'ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est dans, je cite, les territoires de la géographie prioritaire de la politique de la ville que les contestations de cette laïcité sont les plus fortes, autrement dit dans les quartiers populaires. Principal élément perturbateur, selon lui, l'islam radical. Alors, comme le note l'agence France Presse, ce rapport a été fraîchement accueilli par le président de l'Observatoire de la laïcité. Jean-Louis Bianco dit regretter le manque de rigueur méthodologique de ce rapport et la méconnaissance d'actions déjà mises en œuvre par les pouvoirs publics. Cette passe d'armes n'a pas grand-chose de surprenant. Depuis quelques années, la laïcité est redevenue un sujet de crispation, en particulier à gauche, entre les tenants d'une approche dite libérale, voire ouverte, et ceux qui défendent au contraire sa stricte application, pas seulement à travers la loi, mais aussi en termes de principes politiques. Alors, ces positions sont-elles vraiment irréconciliables? Et la laïcité n'est-elle pas une et indivisible? C'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir en compagnie de deux invités. Jean Bobéraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et sociologue, ancien titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études. Parmi vos ouvrages, j'en citerai deux. La laïcité falsifiée, publiée à La Découverte, c'était en 2012. Il y a eu une réédition un petit peu plus tard. Et puis chez le même éditeur, c'était en 2016, un petit manuel pour une laïcité apaisée. Pour discuter avec vous ce soir, Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin, vous êtes un des fondateurs du Printemps républicain qui vise à promouvoir la laïcité dans l'espace politique. On vous doit, c'était chez Fayard en 2015, l'insécurité culturelle et vous êtes depuis peu membre du Conseil des sages de la laïcité qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer. Je ne sais pas où en est l'installation de ce conseil, mais est-ce que vous pouvez au moins nous dire à quoi est censé servir ce Conseil des sages ?
Oui, alors le Conseil a déjà été installé, a commencé à travailler depuis le début de l'année. Et alors ce Conseil est en fait, alors ça s'appelle le Conseil des sages, c'est le ministre qui a voulu qu'il s'appelle ainsi. Mais évidemment, nous ne nous définissons surtout pas comme des sages. Peut-être la seule sage dans cette assemblée est sans doute la présidente de ce
Dominique
Conseil,
Schnapper.
Qui est Dominique Schnapper, qui a été membre du Conseil constitutionnel. Donc elle, une vraie sage, en l'occurrence. Mais les autres, non, nous ne sommes pas sages. Non, simplement, le ministre l'a clairement expliqué. C'est un dispositif d'ensemble, en fait, dans lequel s'insère ce Conseil, puisque le ministre a lancé une politique qui vise à mettre en place des unités territoriales dans les rectorats, les académies, sur la laïcité, de gestion des éventuels conflits et des difficultés. En fait, en élargissant à la fois en nombre, en quantité de personnel disponible et dans l'extension de leurs interventions, les anciens référents laïcité. Et puis, il y a une cellule nationale qui coordonne l'ensemble de ces unités et le Conseil qui est chargé d'apporter en fait une vision à partir des discussions entre ses membres. Et nous sommes 13, et c'est extrêmement pluraliste, hein, puisque siège Jean-Louis Bianco, notamment.
Donc le président de l'Observatoire de la laïcité.
Voilà, des gens comme Rémi Brague, qui est plutôt c'est un philosophe catholique qui affirme clairement ses convictions religieuses. Nous avons là donc des gens assez différents, des gens plus proches de la laïcité au sens traditionnel, de la franc-maçonnerie par exemple. Vous avez tout un ensemble de Catherine Kinsler.
Mais puisqu'on parle d'un conseil de sages, moi j'ai été assez surpris de ne pas y retrouver quelqu'un qui pourrait revendiquer justement cette appellation de sage. C'est vous, Jean Bobéraud. Est-ce que vous avez été sollicité pour en faire partie? Qu'est-ce que vous pensez de Laurent Bouvet? Nous dit, c'est un conseil qui est assez pluraliste. Est-ce que vous avez des remarques particulières à faire sur sa composition?
Moi, je dirais que c'est un conseil qui est à majorité dans ce qu'on appelle le républicanisme, hein, que moi, je ne mets pas en équivalence avec la République, parce que personne n'est propriétaire de la République. Mais je ne sais pas quelles sont les intentions du ministre et je ne vais pas épiloguer là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur le titre que vous avez donné à cette émission, la laïcité est-elle une indivisible,
ouais,
avec un point d'interrogation. Je voudrais faire deux ou trois petites remarques. La première, c'est que effectivement, il faut éviter la confusion. La République n'est pas une et indivisible, contrairement à ce que beaucoup de gens disent.
Elle est indivisible. Le « une » a été gommé des textes. Alors, ça, on a fait une émission il n'y a pas longtemps là-dessus, donc voilà. Nos auditeurs le savent désormais.
Oui. Bon, mais si vous voulez... C'est la Constitution de 1793 qui était la République une et indivisible, donc la Constitution jacobine. Et dans le jacobinisme, il y a deux aspects. Il y a l'aspect refus d'un État avec des statuts, un ancien régime qui était un État de statuts, où on le remplace par une République de citoyens. Et ça, c'est toujours un héritage tout à fait précieux. Bon. Et puis, il y a eu le fait que, avec la République une et indivisible, il y a eu une absolutisation de la République et que Jacobins ont fait guillotiner les Girondins. Bon.
Et donc, alors, du coup, Jean Bobéreau, juste pour aller sur le débat et qu'on ne perde pas trop de temps, si vous voulez bien, parce que même si 40 minutes, ce n'est pas si mal, ça va passer très vite, vous allez le voir. Est-ce que ça veut dire que vous considérez, puisque vous avez évoqué ce terme de républicanisme, qu'aujourd'hui, une vision qui serait républicaniste de la laïcité considérerait que la laïcité, justement, a ce caractère un et indivisible et qu'on ne peut pas en discuter. Est-ce que c'est ça que votre approche, ce qui vous distinguerait éventuellement de Laurent Bouvet ?
C'est le risque, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a dans le rapport Clavier, il y a un contresens qui est très intéressant parce que il reprend une distinction d'Émile Poula sur la laïcité dans les textes et la laïcité dans les têtes. Bon. Et Émile Poula faisait cette distinction en disant les gens qui n'ont pas lu les textes, ils ont leur conception de la laïcité dans les têtes, mais c'est pas ça qui fait loi. Là, ce qui fait loi, c'est la laïcité dans les textes juridiques. Bon. Et lui, il le prend comme il y a la laïcité dans les textes qui est respectée, mais la laïcité dans les textes, les têtes ne seraient pas respectées. Donc il le prend tout à fait à l'inverse d'Émile Poula. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une laïcité comme dispositif politico-juridique, avec la loi de 1905 en son centre, mais aussi d'autres lois et toute une jurisprudence. Bon. Et puis, il y a les représentations de la laïcité. Bon, moi, j'ai fait un livre que vous n'avez pas cité qui s'appelle « Les sept laïcités », où j'analyse les différentes représentations de la laïcité. Et là, c'est vrai que pour moi, il y a un vrai risque de laïcité, justement, qui reprendrait dans l'aspect jacobin, l'aspect un peu république absolue. D'ailleurs, il y a eu un livre sur la Troisième République qui s'est appelé « La République absolue ». Ça a été une tentation républicaine et c'est toujours une tentation d'un certain républicanisme. Et pour moi, c'est quelque chose qui amène à une laïcité qui est plus exclusive qu'inclusive.
Alors, est-ce que vous, Laurent Bouvet, vous pourriez vous reconnaître dans cette approche républicaniste absolue d'une laïcité qui serait davantage exclusive qu'inclusive ?
Alors, républicaniste, non. Je n'emploie jamais ce terme. Moi, je suis républicain et je pense que la laïcité est et doit être républicaine. Et je l'opposerai à une forme plus libérale, dans le sens où il y a une conception libérale de la liberté et une conception républicaine de la liberté. Oui, alors voilà, on pourra y revenir. C'est vraiment le débat de fond. Mais je réponds à votre question. Oui. D'une laïcité exclusive, certainement pas. D'une laïcité fermée, encore moins. Si je pensais qu'il n'y avait qu'une laïcité, la seule et la vraie, qui serait évidemment celle à laquelle je pense, je ne viendrais pas en débattre. Enfin, tout ça n'a pas grand sens. Non, Pour rentrer dans le vif du débat directement, moi, ce que dans ce que vient de dire Jean Bobéreau, à la fin de votre propos, ce qui me gêne à la lecture, et je suis un lecteur assidu de Jean Bobéreau depuis longtemps, de tous les ouvrages sur la laïcité. Je n'ai pas lu la partie sur la sociologie du protestantisme, qui est moins mon domaine. C'est que, en fait, il a tendance, disons, à rabattre les formes de laïcité, de conception, de représentation dont vous parliez, voire d'interprétation des textes, parce qu'il y a une interprétation des textes, notamment évidemment de la loi de 1905, à rabattre ça en disant il y a une interprétation fautive et dangereuse à la fois, qui serait l'interprétation dite républicaniste, jacobiniste, qui renvoie au gallicanisme, à la vision gallicane qu'il dénonce, Et donc, à rabattre tout ça en disant, voilà, c'est à la fois fautif parce que ça serait une mauvaise lecture de l'histoire et de la relecture que fait Jean Bobéro de l'histoire, de la laïcité de la République, évidemment, mérite d'être discutée, c'est une vision particulière, et ça serait dangereux politiquement parce que, notamment aujourd'hui, ça ne permettrait pas de répondre à un certain nombre de questions qui se posent, en particulier avec l'émergence depuis quelques décennies d'une nouvelle religion importante qui est devenue la deuxième religion de nos concitoyens, qui est l'islam. Voilà. Donc, c'est ça que je comptais. Je trouve que rabattre cela en disant finalement tout ce qui n'est pas la laïcité telle que Jean Bobéro l'explique en prenant Aristide Briand comme un libéral, etc., en disant voilà, les autres finalement c'est du combisme avec des tout ce que ça implique, du Émile Combes, du petit
voilà,
Percombes,
j'allais le préciser,
donc dans la période radicale de la République juste avant 1905, et en disant voilà, et tous ceux qui sont dans ce, disons, dans une conception qui conteste la laïcité comme simplement un principe de liberté libérale, ce sont des républicanistes, des jacobins, des gallicans, des gens qui ne comprennent pas l'ouverture, la diversité, la multiplicité, les expériences étrangères de séparation des églises et de l'État comme il y en a dans beaucoup de pays, etc. etc. Voilà, c'est ça que je conteste, disons, sur le fond de notre désaccord, hein, pour être clair.
Voilà, alors pour qu'on prenne bien le fond de votre désaccord, parce que vous, ça fait évidemment très longtemps que vous y réfléchissez, que vous y travaillez, mais pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien ce qui peut vous opposer, justement, c'est-à-dire, Jean Bobéro, de manière un petit peu simple, si vous deviez vous dire ce sur quoi porte votre principal point de désaccord avec Laurent Bouvet, ce serait sur quoi, par rapport bien sûr à cette question de la laïcité.
Bon, d'abord...
Mais je veux bien que vous répondez bien à cette question-là, oui, hein, parce que le temps passe.
Mais d'abord, si vous voulez, je ne suis pas d'accord sur l'opposition entre une vision libérale et une vision républicaine.
Bon, d'abord, de la liberté.
Que la laïcité de 1905 soit libérale, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le premier qui l'a dit, c'est l'historien Antonin de Bidour, en 1909, et qui était un anticlérical bontain, professeur à la Sorbonne, oui. Et qui a été le premier à faire une histoire qui englobait la séparation des églises et de l'État. Et le terme libéralisme, loi libérale et équitable, etc., revient plusieurs fois dans sa plume. Bon, en 1909, je ne crois pas que j'ai pu influencer Antonin de Bidour.
Bon, mais là, on est en 2018. Pardonnez-moi l'un à l'autre, j'insiste vraiment. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment faire un débat de 2018. Alors, certes, les références historiques sont importantes, mais qu'est-ce qui, en 2018, vous oppose dans les visions que vous avez l'un et l'autre de la laïcité?
Par exemple, alors, pour donner un exemple, justement, pour ce que Laurent Bouvet a parlé de l'islam, pour moi, l'islam n'est pas une éruption nouvelle dans la France. L'Algérie était des départements français auxquels on n'a pas appliqué la loi de 1905, bien que des Algériens, et notamment des religieux algériens, les demandaient à plusieurs reprises et qu'on les promis à des reprises. Bon, il y a eu la participation de soldats musulmans, entre guillemets, mais vous savez que l'expression français musulman a été une expression pendant des décennies de la République laïque, qui était aussi empire. Bon, pendant la guerre 14-18, qui ont payé le prix du sang. Du coup, aussi, il y a eu l'érection de la mosquée de Paris dans les années 20, etc. C'est-à-dire, il y a déjà toute une histoire. Et la première mosquée en France, c'est la mosquée de la Réunion, c'est justement 1905.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, Jean Bobéro, l'islam ne pose pas de problème particulier par rapport à l'application des principes de la laïcité ?
Pose des problèmes particuliers, comme le catholicisme pose des problèmes particuliers, voilà, comme le judaïsme pose des problèmes particuliers, comme le protestantisme peut poser des problèmes particuliers. Bon, donc, on peut voir chacun les problèmes, mais si vous voulez, il n'y a pas eu un essentialisme où par nature, par essence, l'islam pourrait poser des problèmes particuliers. Il y a ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il peut avoir des résultantes qui sont à la fois sociales, culturelles, etc. Mais à tel point que, par exemple, parmi les gens qui, j'en finis, mais parmi les gens qui sont djihadistes, vous avez un tiers de convertis et vous avez des filles qui ont porté la burqa ou sont devenues radicalisées, qui auraient été bonnes sœurs parce qu'elles habitaient en Bretagne il y a quelques décennies. Si vous voulez, il y a une circulation. Moi, je suis beaucoup plus pour la circulation que pour l'essentialisme.
Alors, faisons circuler aussi la parole, justement, Laurent Bouvet, sur cette même question.
Soyons très clair parce que, bon, les caricatures sur la manière dont on peut parler de l'islam aujourd'hui sont de tous côtés telles qu'on ne s'y retrouve pas. Il est évident que ce n'est pas pour moi une question d'essentialisme. Quand je dis irruption de l'islam, je n'ignore pas que la loi de 1905 n'a pas été appliquée au département algérien. Je n'ignore pas qu'il y a eu des occurrences avec, justement, des relations compliquées et gérées de manière colonialiste avec l'islam lorsqu'il était sur des territoires français. Mais là, je parle, quand je dis qu'il y a eu éruption depuis quelques décennies de l'islam, aujourd'hui, comme une question qui se pose à la société française, c'est celle, évidemment, d'un islam avec des citoyens français qui sont des citoyens comme les autres, en droit et en devoir, qui ont les mêmes droits, qui ne sont plus les sujets coloniaux, même si certains veulent continuer à les laisser dans une forme de post-colonialisme, mais ce n'est pas mon sujet. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a une question qui se pose, qui ne se posait pas il y a encore, je ne parle même pas de 1905, il y a encore une trentaine d'années. Par exemple, quand il y a eu la fameuse marche des beurs, la marche des banlieues, la marche pour l'égalité, hein, en 1983, c'est une marche qui ne se réclamait pas de la religion. C'était une marche qui se réclamait d'une volonté de s'intégrer dans la citoyenneté, etc. Mais depuis, il y a eu un certain nombre d'événements, 1989, avec les premières affaires de voile, hein, à Creil, Jean Bobéro connaît évidemment très bien ça. Il y a eu aussi dans le monde un durcissement dans une partie de l'islam, de fondamentalisme, de radicalisme, qui pose des questions nouvelles et qui a des conséquences sur les musulmans aujourd'hui partout et qui est un combat à l'intérieur de la communauté musulmane au sens de l'Oumma, de la communauté des croyants musulmans, partout là où elle existe, notamment en France, où l'islam est là, on dit, la deuxième religion, même si c'est compliqué à mesurer.
Mais Laurent Beauvais, ces questions nouvelles, loi de 1905 permet pas de appréhender les autres
bien
religions.
Sûr. Alors, je réponds à votre question. Pour moi, il n'y a pas de spécificité a priori de la manière dont la République laïque doit traiter ou non l'islam. Parce que l'islam doit rentrer dans le cadre de cette égalité des religions, la dominante catholique historique française, comme les minoritaires que connaît bien Jean Bobéro, notamment protestantes, réformées, les quatre cultes reconnus dans le Concordat et le culte israéli, donc qui étaient les quatre cultes reconnus à ce moment-là, plus d'autres éventuellement, je sais pas, les bouddhistes, etc., peu importe. Bon. Il n'y a pas de spécificité du point de vue républicain du traitement. La question qui se pose, c'est une question par rapport à l'islam, et aujourd'hui il y a, vous avez sans doute traité ça aussi dans vos émissions, l'organisation d'un islam de France possible, etc. Il y a une question qui se pose par rapport à ce qu'est l'islam réellement, c'est-à-dire ce n'est pas une religion unifiée comme l'est le catholicisme, avec un clergé, une hiérarchie, une puissance extérieure comme le Vatican, etc. Ce n'est pas non plus un culte qui a été organisé de longue date, comme le culte israélite ou comme le culte réformé ou le culte luthérien, peu importe, avec des représentants, avec une organisation qui permet à l'État un dialogue, que ce soit dans le cadre d'un concordat ou depuis 1905 dans le cadre de la loi de séparation de la laïcité. Voilà, c'est
donc
ça.
Donc la loi de 1905 ne suffit pas du coup.
Elle est un cadre qui normalement répond à des questions qui se posent. Simplement, le problème c'est qu'on n'a pas en face une organisation qui permet un dialogue. Mais sur un certain nombre de problèmes, la loi y répond. On peut parler des cantines scolaires, on peut parler d'un certain nombre de sujets. La loi y répond sur les édifices religieux, mais il y a des problèmes. Financement des lieux de culte, il y a des problèmes de ce type. Donc là, on est dans des difficultés pratiques.
Jean Bobéro.
Alors, bien sûr que, effectivement, si vous voulez, vous avez parlé du financement des lieux de culte. Bon, la loi de 1905 dévolue gratuitement tous les édifices qui sont propriété publique aux religions. C'est-à-dire la plupart des églises catholiques, une bonne partie des temples et une partie des synagogues. Bon.
Évidemment, pour les mosquées,
il n'y avait pas de mosquée en métropole. Donc
voyez,
ça, voilà. Effectivement, c'est un problème spécifique.
Voilà.
Mais ceci dit, justement, dans la jurisprudence et dans ce qu'a dit le Conseil d'État, il y a des biais pour arriver à affronter ce problème. D'autre part, la loi de 1905, justement, a permis la création d'aumôniers musulmans, dans les hôpitaux, dans les prisons, à l'armée. Bon, à l'armée, ça marche bien parce qu'ils sont bien payés, bien formés. Ça marche moins bien quand ils sont payés au lance-pierre et qu'ils sont moins reconnus, si vous voulez. Bon, mais la loi de 1905 permet ça. D'ailleurs, il y a des aumôniers bouddhistes aussi qui sont en train d'exister. Bon, donc la loi de 1905 a une possibilité de dynamique et d'évolution. Bon, et tant mieux. Alors, peut-être que le problème, moi je dirais, c'est pas l'islam en tant que tel, c'est la relation entre la France et l'islam, qui effectivement est une relation compliquée. Et bon, vous dites, on est en 2018, etc., mais une société est pleine d'épaisseurs historiques. Et on ne peut pas faire fi, si vous voulez, de tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Robert Castel, par exemple, a écrit un bouquin qui s'appelait « La discrimination négative, citoyen ou indigène ». Bon, pour moi, cette question, c'est une réelle question. Il avait raison de la poser, Robert Castel avait raison de la poser. Bon, donc effectivement, là, il y a une spécificité, mais la spécificité, c'est dans l'interaction. C'est pas dans une essentialisation de l'islam.
Mais sans aller jusqu'à l'essentialisation, je voudrais juste alors vous citer un autre extrait du rapport très très complet qu'a remis donc Gilles Clavreul sur la laïcité. C'était il y a quelques jours. J'ai pas précisé que Gilles Clavreul fait aussi partie du printemps républicain avec vous Laurent Beauvais. Et il dit notamment ceci: dans les lieux où la population de confession musulmane est présente, parfois de façon très majoritaire, le rapport à la République se tend sous l'effet d'une foi de plus en plus ouvertement revendiqué. Et il en fait un problème par rapport à la laïcité. Est-ce que vous considérez, l'un et l'autre, Jean Bobéro, Laurent Bouvet, que quand on revendique de manière de plus en plus ouverte sa foi, ça va à l'encontre des principes de la laïcité? Jean Bobéro d'abord, ensuite Laurent Bouvet.
Bon, tout dépend comment on la revendique. Si vous voulez, il faut la revendiquer dans le respect d'autrui. La Déclaration des droits de l'homme dit que la liberté de chacun s'arrête à la liberté d'autrui. Bon. Mais alors, ce qui est intéressant dans le rapport de Clavreul, bon, c'est d'une part, il dit y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas parler des endroits où il n'y a pas de problème, et donc je vais parler des endroits où il y a des problèmes. Bon. Moi, je conteste cette démarche parce que quand il n'y a pas de problème, c'est construit. C'est construit, et notamment c'est tout le rôle de l'Observatoire de la laïcité depuis 5 ans, de faire en sorte qu'il y a plein d'endroits où il n'y ait pas de problème. Et c'est tout un travail qu'ils font, et qu'ils font très bien. Bon, donc déjà ça, de dire on part que de la partie émergée de l'iceberg, et on ne parle pas de la partie immergée où ça va bien, c'est déjà une première faute à mon avis. Et la deuxième faute, c'est très caractéristique, c'est qu'il dit... j'ai été dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, il n'y a pas de problème de laïcité, sauf dans un quartier populaire à Strasbourg, etc. Alors, évidemment, c'est des émigrés, c'est des musulmans, etc. Il n'y a pas de problème de laïcité en Alsace-Moselle, alors que la loi de 1905 ne s'y applique pas, alors que la loi de Jules Ferry ne s'y applique pas. Autrement dit, on accepte que structurellement, si vous voulez, il y a trois départements de la France dits indivisibles où la laïcité de 1905 ne s'applique pas, où la laïcité de Jules Ferry ne s'applique pas. Non, là, il n'y a pas de problème. Il y a un problème dans un quartier populaire.
Alors, Laurent Bouvet.
Alors, quoi ?
Laurent Bouvet, sur cette revendication, en tout cas de plus en plus ouvertement visible, disons, comme le note le rapport Clavreul.
Alors,
quoi ça pose un problème par rapport à la laïcité ?
Il faudra d'abord que vous invitiez peut-être Gilles Clavreul qui vous parle de son rapport, sur sa méthode et sur pourquoi il a travaillé à partir de questions qui se posaient, qui étaient posées par des élus, par des fonctionnaires locaux, des agents publics, par des agents au guichet qui rencontrent des problèmes, eux, toute la journée et pour lesquels il y a des questions qui se posent à l'hôpital, à l'école, dans les centres d'action sociale, dans la police, etc., etc. Donc les problèmes existent et c'est pour ça qu'il faut essayer de les traiter. Qu'il y ait des endroits où il y ait moins de problèmes, et ça existe aussi heureusement, ce n'est pas dû simplement au travail de l'Observatoire ou je ne sais quelle institution, c'est simplement qu'il y a des questions, des concentrations de population qui sont des problèmes à la fois, qui posent des questions à la fois sociales, des problèmes sociaux, et qui pose aussi des questions en termes d'éducation et notamment de rapport à la laïcité. Et ça me fait venir sur le fond de votre question.
Ce qui me semble peut-être confus, globalement, pas du tout par rapport à ce que vous dites, Laurent Bouvet, mais c'est peut-être ce qu'on entend par problème. C'est-à-dire, est-ce que
ça peut être une trop grande
visibilité, par exemple, de la religion?
Je viens à ça. Alors, la question qui se pose, et se pose avant tout et principalement à partir de certaines pratiques à l'intérieur de l'islam. C'est pas tous les musulmans, et je crois qu'il y a... Alors, il faut éviter quand même de ce débat sur, dès qu'on parle des musulmans, l'essentialisation. Non, je n'essentialise rien du tout. Je me bats depuis des années contre la dérive identitaire, donc je n'essentialise pas. Il y a simplement des questions qui se posent parce qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques plus radicales de la religion. Et donc, qui affichent une visibilité prosélyte. Parce que vous avez, il se trouve que c'est comme ça dans l'islam, c'est différent d'autres religions, dans les pratiques vestimentaires, dans les pratiques alimentaires, dans les pratiques de prière, etc. Vous avez plus d'éléments contraignants. Le ramadan, tout le monde le sait, c'est très contraignant pour un musulman qui fait le ramadan de manière très rigoureuse, etc. C'est quelque chose de difficile. Bon,
mais ce prosélytisme vestimentaire, il pose quel problème?
Alors, les problèmes que ça peut poser, c'est dans le cas...
Moi, le vêtement n'est pas prosélyte.
Alors attendez, on laisse terminer Laurent Bouvier,
dans le cas où il y a dans les services publics, il y a des pratiques qui ne peuvent pas être acceptées justement au nom de la neutralité qui existe et que le service public doit appliquer. Mais la neutralité, c'est pas simplement les agents, etc., qui doivent être neutres, ça évidemment, ça c'est la loi de 1905 de manière très claire, c'est simplement aussi qu'il ne peut pas y avoir d'influence. Et ça aussi, c'est la loi de 1905 et que la République et la loi de la laïcité protègent contre les citoyens, contre l'influence que voudrait faire peser telle ou telle pratique religieuse dans leur propre religion. C'est-à-dire que si vous avez deux personnes qui ont le même Dieu, la même religion, disons la même foi, mais des pratiques différentes, ce qui existe dans toutes les religions et évidemment dans l'islam aujourd'hui, il ne peut pas y avoir dans la pratique radicale une volonté de faire peser sur celui qui a une pratique moins radicale, plus souple, peu importe comment on le dit, ça c'est pas la question ici, il ne peut pas y avoir cette pression. Or, dans certains quartiers, dans certaines situations, à l'hôpital, ça peut être aussi le cas à l'école, ça peut être le cas au guichet du service public de manière générale, je ne parle uniquement du service public, je parle pas de l'espace public dans lequel il y a une liberté de se vêtir. Hein, et quand on entend que la France est un pays qui interdirait, qui chasserait les femmes avec un voile, c'est faux. Écoutez, il faut se promener n'importe où, on voit bien, et heureusement, chacun est libre de se vêtir comme il le veut. Et les femmes musulmanes, les premières, même si on peut penser ce qu'on veut après du voile et qu'on peut, en termes d'égalité homme-femme, dire bien des choses. Mais peu importe. Donc là, on est sur des questions qui se posent. C'est ça que relève le rapport de Gilles Claverol, et avec une méthodologie qui est tout à fait conforme au rapport administratif, notamment du ministère de l'Intérieur. Il a interrogé plus de 200 personnes dans des situations extrêmement différentes. Voilà, il a mené sa mission seul, lui, en tant que préfet en mission, sans moyens particuliers, contrairement à d'autres organismes. C'est une mission importante qui lui a été commandée dans ce cadre, dont l'Observatoire de la laïcité, d'ailleurs, était à la commande, à l'origine aussi, avec le ministère. Donc il faut être...
Vous avez fait, Laurent Bouvet, une distinction qui me semble assez importante
dire,
entre espèce publique et espèce publique.
Au niveau de l'hôpital, il y a eu 15% de réponses. Et dans ces 15% de réponses, il y a eu 30% où il y avait des problèmes qui étaient gérés, etc. Mais des problèmes. Donc 30% de 15%, c'est extrêmement minoritaire. C'est extrêmement minoritaire. Mais évidemment,
on essaye de traiter les problèmes.
Mais bien sûr,
La SNCF, on traite les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Arrivent à l'heure, je suis désolé, c'est très bien, c'est le service public.
Oui,
hein.
Je ne comprends pas cette
objection.
Parce que depuis 30 ans, on focalise, si vous voulez, alors par exemple l'histoire du foulard, c'est exemplaire, on focalise sur les femmes à foulard, on demande à madame Latifa Ben Zaten si elle voudrait pas enlever son foulard pour donner des cours de citoyenneté aux élèves, alors qu'elle est la mère d'un soldat qui est tué par
Mohamed
Merah. Bon. Alors que en même temps, au même moment, il y a eu l'omerta sur toutes les harcèlements sexuels, etc. C'est-à-dire que on se sert de la laïcité pour focaliser l'attention sur des problèmes dont je nie pas du tout l'existence, mais qui sont beaucoup moins graves que d'autres, qui du coup sont dans l'impensé social. Bon, on nous a fait l'opposition entre la femme occidentale libérée sexuellement, etc. Et puis maintenant, on nous dit tout à coup, la parole des femmes se libère. Ah bon, ça fait 30 ans qu'on nous dit que la femme occidentale est libre, et maintenant la parole se libère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pendant 30 ans, on nous a raconté des cols. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que c'est une laïcité qui, où on monte une laïcité de faits divers. Bon, il y a toujours des faits divers partout, dans tous les pays, dans tous les... Bon.
Mais est-ce que vous diriez du coup, Jean Bobéro, qu'aujourd'hui, vous considérez que la laïcité et ses principes ne sont pas particulièrement menacés ?
On construit justement, il y a des mouvements de quartier, des associations de quartier, il y a des mouvements d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, etc. Alors, justement, la Ligue de l'enseignement, c'est très intéressant. Il y a un journaliste qui vient les trouver en leur disant « Dites-nous nos problèmes de laïcité ». Et ils expliquent que, justement, ils font en sorte qu'ils n'aient pas de problème de laïcité. Et ils disent « On va vous expliquer comment on fait ». Le journaliste répond « Ça ne m'intéresse pas. Dites-moi une association qui a des problèmes de laïcité ». Vous voyez, c'est là où je dis qu'il y a un effet de loupe. Et que cet effet de loupe, au bout du compte, il fait que, justement, les gens se sentent stigmatisés, non sans raison, et que du coup, il y a une sorte de prophétie auto-réalisatrice, et que plus on enfonce le clou, plus effectivement, il y a des risques de tension et de radicalisation. Autrement dit, pour moi, c'est contre-productif. Et je vais vous donner, moi, ma conception de la laïcité, c'est celle de l'armée. Elle est peut-être moins libérale que celle de l'armée, parce qu'à l'armée, vous avez des menus cachers et des menus halal. Ils ont très bien compris qu'à l'armée, qu'il fallait isoler les extrémistes, qu'il fallait isoler les radicaux et qu'il fallait avoir une laïcité la plus inclusive possible.
Laurent Bouvet ?
Alors, enfin, je ne commenterai pas sur la question de la libération des femmes, mais enfin, je vois pas le bon, qu'il y ait des problèmes toujours plus importants que d'autres. Bon. Il se trouve que...
Sur l'effet loupe et le côté prophétie autoréalisatrice.
Oui, non, enfin, bon, soyons clairs. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, ça a commencé en 89 avec les premières affaires de voile, jusqu'à la loi de 2004, qui a mis un terme à ces questions parce que la loi a permis de régler la question de manière générale, un principe général, et je crois que c'est ça le point
du rapport de Gilles Clavreul. Donc je rappelle, interdiction des signes religieux à l'école.
Port de signes et de vêtements qui manifestent ostensiblement une religion. Vous pouvez porter des signes religieux discrets, etc. Peu importe. Et je crois que c'est le travail du rapport de Gilles Clavreul et de bien d'autres gens, ce qu'on fait aussi dans le Conseil de la laïcité, c'est d'essayer d'aider les agents publics, alors dans le Conseil de la laïcité ministère, c'est uniquement l'éducation nationale, hein, d'essayer d'aider les agents publics, d'essayer d'aider les responsables politiques, les élus locaux, parler avec des élus locaux. Vous verrez s'il n'y a aucun problème. Enfin, l'idée, c'est de les aider. C'est pas de leur dire la Ligue de l'enseignement qui a été la première à introduire, rappelons-le, dans les années 90, Tariq Ramadan en France, sur les plateaux télé, etc. Rappelons aussi ces histoires. Faut être raisonnable quand même. Hein. Il faut. Donc, c'est l'idée, ce n'est pas de dire qu'il n'y a que des problèmes et qu'il n'y a que des problèmes avec les musulmans et que c'est... Non, bien sûr que non. C'est qu'il y a certains problèmes pratiques, il y a certaines difficultés auxquelles sont confrontés les agents publics qui ont, eux, le devoir de neutralité, qui ont, eux, qui portent la laïcité auprès de nos concitoyens, et qu'il faut les aider à trouver des manières pratiques de gérer. Quand il y a eu la loi de 2004, ça a réglé la question, parce que tous les proviseurs, tous les directeurs d'école ont pu s'appuyer sur la loi en disant, quelle que soit leur conviction par rapport au port du foulard des jeunes filles, dans l'enceinte scolaire, on ne peut pas porter la kippa, on ne peut pas porter le foulard, c'est interdit. Voilà. Donc ça c'est la loi, ça c'est la République.
Mais c'est pour ça. C'est ce que j'allais vous demander, Laurent Bouvet. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que ces problèmes-là, pour lesquels un certain nombre d'élus ou peut-être de professionnels de l'éducation nationale ont besoin d'une aide, c'est parce que la loi ne suffit pas aujourd'hui
parce que la loi
à régler un certain nombre de problèmes.
La loi ne couvre pas tous les sujets. Elle ne peut pas couvrir tous les sujets. Elle s'adapte. La loi de 1905, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, a été adapté pratiquement une trentaine de fois, historiquement, depuis 1905.
Et après, il y a quand même le Conseil d'État qui interprète la loi et qui permet de prendre des décisions et de trancher.
Et bien sûr, il y a la jurisprudence de la Cour administrative, enfin, de la justice administrative, donc Conseil d'État, évidemment. Il y a tout ça. Donc, on s'adapte. Mais il y a encore, aujourd'hui, des angles morts. Il y a des questions en débat. Par exemple, la question des accompagnatrices, des fameuses accompagnatrices, des mamans voilées, comme on dit, de sortie scolaire. scolaire. C'est une question qui fait encore, on l'a vu récemment, débat. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de loi, il n'y a pas d'État, il y a un État du droit, mais qui est un État infralégislatif, il y a une étude du Conseil d'État, il y a une circulaire ministérielle, si on veut rentrer dans les détails juridiques, mais il n'y a pas de loi ou il n'y a pas de jurisprudence du Conseil d'État qui dirait c'est autorisé, c'est interdit, etc. Donc on est dans quelque chose de flou. Voilà, c'est pour ça qu'il faut débattre aussi de cette question.
Vous êtes d'accord avec ça sur cette idée qu'il y a des angles morts aujourd'hui, Jean Bobéraud, et qu'il y a... Attendez, écoutez bien ma question. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des angles morts aujourd'hui et que la loi ne permet pas suffisamment de répondre aux problèmes qui se posent, quand problème il y a? Alors, bon, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur l'ampleur des problèmes, mais en tout cas, quand il y a problème, est-ce que la loi est insuffisante aujourd'hui à tous les régler? Est-ce qu'il faudrait davantage de lois?
Non,
sur ces questions de laïcité.
Je ne pense pas qu'il faudrait davantage de lois. D'abord, il faut que la loi ne soit pas contre-productive. Or, le rapport Claverol est quand même beaucoup plus inquiétant que vous ne le dites, puisque il dit qu'il y a...
Le rapport Claverol, Monsieur Bobéraud, soyons sérieux, c'est un rapport
d'administration
de l'État.
Attendez, ce que je veux dire, c'est qu'il dit bien sur la loi de 2004 qu'il y a une résistance sourde. Et pas seulement des personnes concernées, des jeunes filles qui portent le foulard, mais de beaucoup de lycéens et d'enseignants. Bon.
Oui, donc la loi de à l'intérieur de l'éducation nationale,
oui,
je vous le confirme.
Elle n'a pas convaincu.
Elle a empêché que ça se développe beaucoup plus, ce qui était le cas avant 2004. Vous le savez très bien. Il y avait des différences de traitement.
Tout de suite, bon, etc.
Il y avait des différences de traitement entre établissements, ce qui n'est pas acceptable pour l'égalité entre citoyens.
Au niveau des enquêtes auprès des élus locaux, moi, dans le laboratoire dont je suis membre, il y a une enquête qui est faite par Jean-Paul Villem et Philippe Portier qui travaillent depuis plusieurs années et qui travaillent avec les élus locaux. Alors, je ne dis pas que tout est rose et tout est parfait, etc. Mais c'est la gestion raisonnable, disons, des problèmes éventuels de laïcité qui l'emporte énormément par rapport à des conflits qui sur
la nécessité de gérer raisonnablement, on sera entièrement d'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs une gestion raisonnable?
Aider les agents publics et les élus, c'est être dans la gestion raisonnable des questions. C'est ce qu'on va faire avec le Conseil de la laïcité au ministère. Hein.
Jean Bobéraud, est-ce qu'une application raisonnable, ça peut être une façon d'interpréter la loi avec une forme de bon sens? Je prends un exemple. Alors, ça a été traité par le Conseil d'État. On va changer un petit peu de religion. On va aller en plus en Bretagne. Avec une statue de Jean-Paul II à Ploermel, statue de Jean-Paul II avec au-dessus une croix. Il y a eu
une
grande croix. Voilà. Et le Conseil d'État a décidé en octobre dernier du retrait de la croix au nom de la loi de 1905 en disant par contre on peut maintenir la statue. Bon, il se trouve que depuis, il y a eu le Conseil municipal qui a accepté de vendre cette statue à l'Église catholique qui va la déplacer dans l'enceinte d'un collège privé. Mais en tout cas, est-ce que quand le Conseil d'État par exemple, décide de dire on enlève la croix, mais on peut garder la statue de Jean-Paul II dans un espace public. Est-ce que là, c'est ce qu'on pourrait appeler une interprétation, comment dire, assez souple
À la douceur, oui, tout à fait.
Alors, je vous demanderai après, Laurent Bouvet, mais je veux d'abord savoir ce qu'en pense Jean-Paul
II. Si vous voulez, justement, vous avez l'article 28 de la loi de 1905 qui, normalement, devrait, en bonne logique, en stricte logique, interdire. Et ce qui est quand même affolant, c'est que quand le maire a accepté cette statue, soit il ne connaît pas la loi, mais alors il aurait dû avoir un conseil juridique, soit il a transgressé la loi volontairement. Donc il y a quelque chose quand même là, une atteinte à la laïcité et à la République qui me semble plus forte que d'autres. Bon. Deuxièmement, le Conseil d'État fait vraiment une interprétation à la douceur de la loi de 1905, puisque il fait enlever la grande croix sur fond public. C'est quand même ahurissant de faire une grande croix sur fond public dans une république laïque. Mais il garde la statue de
Jean-Paul II.
II.
On ne peut pas dire que ça soit totalement dénué de sens religieux, quand même.
Voilà, faisons... Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait le même degré de laïcité pour toutes les religions.
Très vite, Laurent Bovet, sur cette question, parce qu'on est déjà au terme de l'émission. Désolé, je m'attendais à ce que ça soit.
Le Conseil d'État a dit le droit. Une croix, c'est un signe ostensible religieux qui n'a rien à faire dans un espace public qui était un square public. La statue de Jean-Paul II, et on comprend la décision, c'est un chef d'État. C'est pas seulement un responsable religieux, c'est l'ambiguïté, évidemment, à chaque fois avec le pape. On le voit bien dans les relations entre le président français et le pape, le chanoine de Latran, comme vous savez. Donc, il y a toujours cette ambiguïté. Donc, je crois que le Conseil d'État prend là une décision strictement conforme à ce principe. Mais il y a plein d'endroits où, justement, les élus, soit ne savent pas, soit, comme on a vu avec les crèches, etc., font de la provocation et de la manipulation. La laïcité est manipulée aussi, bien évidemment. Donc, il faut y répondre avec sérieux, avec détermination, faire appliquer les règles communes. Voilà, c'est ça la laïcité.
Merci Laurent Bouvet et merci Jean Bovéro d'avoir participé à ce débat passionné, on s'en doutait un petit peu.